la musique. Inouï.
Carabanana maximum.
Chagueuse. Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Inoubliable.
Só furda o agal.
Vive mon panthéon. Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre. Dégazer les plats, dégazer les plateaux, dans la mer où moi j'ai fumé, le pur air, à tes ne peut se comparer, on clamait des pigeons, des voyageurs, pour toi, la vie du rail, le pont, jusqu'aux cieux envolés. Je vous crie en retour, contempteurs, zélés.
Loin des rodéos, je m'absente.
Dans votre flanc,
mais des absents, inactifs, fermentés,
pomme cul.
Finalement, Dieu tonnerre ne m'aura pas grondé.
Mon sourire effacé, dégoûté. J'aimerais
tant les formations,
la gentille gare, auricus,
Vulve républicaine, c'est de ta faute. casque à corps.
Je bave, j'en lave naturellement la nature morte.
Et sur la route
fardée, loin des rodéos, je m'absente. Mais les absents,
loin des rodéos, je m'absente.
Et la guerre de Sarah, finalement, Dieu tonnerre ne m'aura pas grondé.
Finalement, Dieu tonnerre ne m'aura pas grondé.
Que ça a dans le fumier, dégazé des
opérations,
dans la mer, le pur air,
ATP,
clamer les pigeons,
les voyageurs.
Pour toi, la vie du rail,
apparaît. Pour toi, la vie du rail apparaît.
Ne compte plus comme nous, jusqu'aux cieux t'envoler.
Je vous crie en retour, contempteurs zélés, que dedans votre fiente, mon inactivité fermentée a coulé.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde à Gentilly, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Et aujourd'hui, il va être question de création curieuse d'autres formes, puisque nous allons parler de performance. Puisque notre émission est consacrée au festival Frasque, qui aura lieu
du 3 au 17 octobre.
Merci Léa, au générateur à Gentilly. Alors nous avons pléthore d'invités aujourd'hui et c'est la fête aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde dans le studio. Avec les distances de sécurité, bien sûr.
Bien sûr.
Évidemment. On ne plaisante pas avec la sécurité.
Voilà. Bon, bah, je propose que vous vous présentiez chacun à votre tour, à commencer par toi, Jean-François.
Alors, je suis Jean-François, en fait, je suis Gilbert de la Qualité. Très rapidement, je suis un éditorialiste, chers amis auditeurs, dont vous vous passerez, eh bien, comme des vrais, comme des autres, sauf le 3 au soir, puisque le 3 octobre, je vais être dans le jardin avec tous mes petits camarades, le jardin Pablo Picasso, à côté du générateur, et où ça donc? Au centre du monde, à savoir Gentilly.
Bon, alors, tu fais quoi? Tu es musicien? Tu es peintre, artiste, performeur?
Non, je suis quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça.
D'accord.
Je suis un éditorialiste, un anticonformiste.
Ah.
Comme vous voudrez, soit N-A-N-T-I ou soit U-N et anticonformiste, comme vous voulez.
Bon, ça part bien. Anne?
Bah, moi, je suis... La chef de meute. Non, je dirige le générateur et puis c'est ce rendez-vous qu'on a maintenant régulier. Et merci de votre accueil fidèle, c'est qui vrai, nous donne une belle impulse en début de rentrée.
Et, oui,
et surtout dans le contexte actuel, donc c'est d'autant plus formidable de pouvoir présenter ce qu'on va faire en live dans quelques temps.
Bah, merci à toi, Anna, surtout. Hein.
Mais bonjour, bah, je m'appelle Claire Faugouin et moi, à la base, je suis comédienne. Et j'ai débarqué au générateur il y a 3 ans et depuis, je ne suis pas trop partie. Voilà.
Très bien, Léa.
Donc, moi, c'est Léa Dasenka. Donc, je travaille avec Anne à la communication, les partenariats, relations publiques. Et donc, on travaille d'arrache-pied là, depuis le 24 août sur la construction de tout ce festival et surtout, déjà dans un premier temps, Nuit Blanche. Qui lance cette 12e édition le 3 octobre.
Moi, je suis Catherine Ursin, je suis artiste plasticienne. Et bah, c'est un peu comme Claire, c'est quand on rentre au générateur, on n'en sort plus. Mais c'est un tel plaisir.
Je ne les enferme pas.
Non, non,
non, on vient la note
surtout
plinguer.
Pas, au contraire, c'est un lieu de liberté qui est très important et qui nous donne la chance de s'exprimer en liberté, justement. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de travailler au générateur.
Même s'il y a plein d'autres endroits de liberté, hein, vous savez tous, hein, chers amis auditeurs, c'est plein de liberté dehors. Il suffit d'aller chez les autres et tout. Non, non, je plaisante, bien sûr. Il n'y a qu'au générateur où c'est un vrai espace de liberté.
Et Laurent Pascal, musicien, c'est vrai que ça me fait plaisir de me sentir un peu invité pour une fois, puisque je vais aussi participer à cet événement de frasques au parc de Gentilly, début octobre.
Bah, heureux de te retrouver, Laurent. Laurent, merci, Laurent qui a animé pas mal d'émissions pendant bien des années ici même, et puis qui va continuer, j'espère.
Ouais, il y en aura d'autres.
Ouais. Bon, alors, nous ne sommes pas entre nous. Nous sommes. Voilà, et il y a toujours cette question que je vais te reposer, comme tous les ans. J'espère que tu l'as préparée ce coup-ci.
D'habitude, c'est un fiasco monumental.
Non, tous les ans. Si vous voulez répondre aussi, hein, mais peut-être, tu vois, le mot de performance sur Radio Libertaire est connoté. Hein, la performance, et tu vois, certains économistes pourrait l'utiliser, je sais pas, les performances économiques, tu vois. Il s'agit pas ça du tout, il s'agit de création artistique. Est-ce que tu peux nous donner une définition à nouveau de ce qu'est la performance?
Alors, une définition, je ne sais pas, mais plusieurs accès pour décrire cette forme d'expression qui est quand même récente. Hein. Elle se déploie de plus en plus toutes ces dernières années parce que finalement, ça permet à des artistes, je pense que c'est aussi beaucoup lié aux technologies qui sont accessibles maintenant de manière beaucoup plus démocratique et on peut personnaliser l'image, le son, on peut tout faire soi-même. Ça, je pense que ça a aussi donné une nouvelle ampleur à ce média, à cette expression. C'est une forme hybride. En tout cas, ce qui est peut-être qui la caractérise, c'est que l'artiste qui la conçoit, qui la crée, l'interprète, ça n'a lieu qu'une seule fois. Ça peut être sujet ensuite d'une partition qui est écrite et qui peut être après réactivée par d'autres éventuellement. Il peut y avoir des performances participatives ou qui intègrent la participation du public ou pas. Je pense que moi, ce que j'y vois de principale qualité, c'est que il y en a plein, mais c'est que ça se passe dans un contexte réel du moment. Qu'il soit social, politique, poétique, d'inspiration musicale, sonore, visuelle, plastique, chorégraphique. Et cette forme hybride, je la trouve particulièrement vivante. Et on parle aussi derrière d'improvisation, en sachant qu'improvisation, il faut énormément d'outils derrière. Une belle mallette pour pouvoir être libre dans cette forme d'écriture spontanée. Et voilà, donc ça peut toucher des sujets moi qui me semblent pertinents et actuels. Et puis aussi c'est une belle rencontre humaine entre le public et l'artiste qui est là devant nous et qui prend des risques et qui permet, je trouve aussi, au spectateur de d'aiguiser son regard, ou en tout cas de peut-être de rejeter, mais il peut pas rester insensible. En fait, c'est aussi il doit remettre en question ses acquis en tant que spectateur, ses valeurs, dans le meilleur des cas aussi, et c'est des remises en question en direct que je trouve. Qui ont du sens et qui font que le générateur, je continue à le mener parce que il s'y passe des choses justement extrêmement vivantes et très très riches.
Oui, cette remise en question là, elle est effectivement, c'est le propre de l'art en général. Je veux dire,
oui,
de se confronter à une altérité, à quelque chose qu'on n'avait pas vu, pas imaginé, etc. Je voulais insister moi sur une chose. Que tu as dit rapidement dans la caractérisation de la performance, mais c'est effectivement que le performeur, il est, comme tu l'as dit, devant le spectateur, c'est-à-dire que le corps du performeur, justement, c'est pour ça que moi, la performance, on peut la définir de multiples façons, mais ce qui m'intéresse, c'est que précisément, à rebours du monde dans lequel on vit, où tout est virtualité et absence et autres, là, il y a une présence, là, il y a un corps, là, il y a un être humain qui est en face d'un autre, et pour moi, c'est ça, la performance, et c'est pas un hasard aussi si historiquement elle vient de la danse, c'est parce que ce corps là il est premier, c'est je suis là, qu'est-ce que je fais. Alors effectivement l'improvisation du coup est un outil formidable pour être là, mais je pense que le point central pour moi dans la performance c'est d'engager le corps en tant que voilà que qu'être vivant
en action,
et présent et devant effectivement un spectateur, mais d'abord quelqu'un qui est là quoi.
Après on pourrait se dire, bien, le théâtre c'est comme ça, oui, le ballet c'est comme ça. La différence c'est quand même que l'histoire de la performance, moi je suis pas du tout une spécialiste, mais à force quand même d'en parler, ça, on peut dire que ça, ça commence quand même avec le mouvement dadaïste, donc il y a une volonté aussi de remettre en question tous les décorums, toutes les modalités du théâtre classique à l'italienne, ou avec une frontalité, et c'est tout ça aussi qui volait en éclat à l'époque et qui aujourd'hui continue encore. Et aussi un minimalisme dans les moyens, peut-être qui sont utilisés, les accessoires, enfin pour que l'action elle soit vraiment à son arrête quoi. Il y a pas de décorum ni de blabla. Moi c'est ça que je trouve aussi quand c'est réussi, c'est là que ça se passe quoi. Très très raide, très concentré.
Et être là, c'est justement ne pas jouer un rôle comme dans le théâtre.
Exactement. Exactement. C'est le vivre pour la première fois aussi comme le public.
Alors tu parles des dadaïstes, alors l'action aussi, hein, effectivement il y a ça. Tu parles des dadaïstes et alors je note dans votre brochure là, le texte d'introduction, rien ne sera plus défaire les repères, construire et déconstruire ce qui est. Alors ce sont des promesses qui nous touchent particulièrement à Radio Libertaire, mais vous êtes particulièrement énervé, vous êtes énervé ces derniers temps?
Non. Enfin, si, bien sûr.
Moi, je suis hyper vénère. Il faut parler de colère.
Voilà.
Si, bien sûr. Après, c'est toujours cette place qu'on peut avoir aujourd'hui, chacun, par rapport à tous ces cataclysmes et puis ces problématiques sanitaires, politiques, sécuritaires, qui, bien sûr, sont là dans nos têtes, sous nos yeux, dans les journaux tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On s'énerve ou alors on propose quand même quelque chose? Donc, moi, je vois la seule issue, en tout cas, à mon petit niveau, c'est encourager, favoriser la poésie, favoriser le lien, et même si ça s'arrête au bout de nos bras, parce qu'on peut pas, enfin ça serait un leurre, un fantasme de se dire qu'on a ce pouvoir de toucher plus de monde, donc ouais, moi je vois vraiment s'il y a une place là aujourd'hui qu'il faut vraiment défendre, c'est celle-là. C'est celle de l'art.
Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est une question à tous un peu. Si vous
oui, moi je veux bien que vous en parliez.
Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est une préoccupation justement que vous avez et qui est aussi inhérente à la forme performative, le fait de vouloir changer les choses, d'être énervé? On a rarement de performance réactionnaire ou conservatrice face à moi.
Moi je crois au contraire qu'on n'a que ça. On n'a que ça partout, tout le temps. Oui. Tout est réactionnaire, c'est de la performance, mais il suffit d'allumer les radios, d'allumer les télévisions. Ouais. La performance réactionnaire est à l'œuvre, tranquillement. On a aussi des exemples dans les journaux. Donc, pour moi, c'est un vrai choix du public, pour une fois, en fait, de sortir un tout petit peu des sentiers battus. Mmh. On ne vous violera pas, chers amis, soyez tranquilles. Vous viendrez, vous verrez ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à manger, ce qu'il y a à boire. Et puis, vous repartirez avec des images, avec peut-être quelque chose auquel vous attendiez pas, ou au contraire, vous serez déçu, peu importe. Mais il se passera quelque chose, parce que très souvent, en fait, quand on vient, moi je suis spectateur de théâtre et je viens d'une formation théâtrale classique, bah, on vient attendre la mort très gentiment dans un fauteuil très confortable. Ouais. Et c'est d'ailleurs en général très douillet, les fauteuils. Ils ont fait d'énormes progrès, surtout grâce au cinéma. Les fauteuils de théâtre sont encore un petit peu inconfortables, mais c'est en voie de progression. De telle sorte que, bah, voilà, de ça jusqu'au au lit de son EHPAD, on sera tranquille, on glissera gentiment. Donc si on a envie d'être un tout petit peu vivant et puis de voir des gens qui essayent de l'être, c'est pas mal d'aller voir de la performance, par exemple.
D'accord.
Alors... Oui, mais c'est ça, c'est vraiment la vie, en fait. Pour moi, la performance, c'est vraiment la vie.
Ouais.
Parce que c'est le vivre du performeur, mais le vivre du spectateur aussi. Et justement, dans la formule de Chaillure-Frasque, où il y a plusieurs performeurs qui performent en même temps,
ouais.
Le spectateur circule dans cet espace et c'est lui qui fait son film, en fait. C'est lui qui fait son spectacle. Donc, il a plein de propositions, mais c'est à lui de vivre ce qu'il a envie de vivre, d'aller voir là, ou de s'intéresser plus à cet endroit qu'à un autre. Et en fait, si on prend chaque spectateur, il n'y en a pas un qui a vu la même chose. Et ça, c'est super intéressant. Et en tant que performeur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a notre partie de performance, mais on est parmi d'autres performeurs. Et c'est pareil, il y a des choses qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas. Et c'est la vie, quoi. C'est vraiment, on est au cœur de la vie, vraiment.
Si je peux rajouter quelque chose, c'est que tu parles de Chaillure-Frasque. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, mais ça, je l'ai découvert au fur et à mesure, parce que l'espace du générateur m'a fait rendre compte de ça, c'est que, en fait, on responsabilise aussi tout le monde, autant le spectateur que l'artiste. Et il y a une idée, ça fait un petit peu prétentieux, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'hiérarchie, en fait. Il y a bien sûr des hiérarchies de volume, de durée, mais en fait, tout le monde est à la même enseigne. Il n'y a pas de dire, voilà, ça c'est mieux que ça, ça on met sur un podium et ça, non. Il n'y a pas de déroulé, donc on ne va pas déjà écrire le film, justement, à la place et des artistes et des spectateurs. Donc cette idée de prendre ses responsabilités, c'est quelque chose que je trouve hyper central, en fait. Si on peut inculquer ça aux spectateurs et créer comme ça une autre forme de d'approche de l'art.
Ouais. Laurent, non, tu voulais pas?
Claire, tu voulais dire quelque chose?
C'était juste mon entrée dans la performance, c'était justement un peu à l'encontre de ce que tu décrivais, la performance capitaliste qui est le fruit d'un professionnalisme, en fait, et d'une expertise.
Oui.
Et que du coup, moi, mon entrée dans la performance, c'est plus, j'ai envie de faire ça, je ne suis pas du tout experte dedans, par exemple, écrire. Et en même temps, j'ai envie d'écrire et de dire mes textes. Et la performance, c'est quelque chose qui ne me fait pas trop peur. Du coup, ça me permettait de faire des choses que je n'osais pas du tout faire au théâtre ou que j'avais pas d'espace vraiment pour explorer. Et du coup, c'est cette chose-là où on va vers vraiment de l'expérience. Et du coup, c'est une performance parce qu'on peut se laisser aller à faire des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on essaye de faire. De toute façon, si on est là, c'est quand même qu'on a traversé plusieurs pratiques et qu'on y arrive pour des raisons assez diverses. Mais on peut faire se rencontrer tout ce qu'on a traversé et tester des choses complètement nouvelles. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la force des images, les performances qui m'ont marqué ou dont j'ai vu des vidéos. Par exemple, j'aime beaucoup Rebecca Chaillon. Et elle a fait une performance qui s'appelle Monstre d'amour, où elle travaille sur le cannibalisme dans l'amour. Et du coup, elle fait mine de manger une autre performeuse qui, à la fin, se retrouve pleine de faux sang. Et en fait, du coup, ça crée des images qui sont hyper fortes et qui apportent aux autres arts. Par exemple, maintenant, au théâtre, on peut voir Angelica Liddle qui se produit sur... c'était à Chaillot, je crois. Enfin, sur des grosses scènes de théâtre qui sont habituellement réservés au théâtre. Et pourtant, c'est vraiment de l'art performatif. Ouais. Et du coup, c'est... Enfin, non, c'est pas vraiment. Mais en tout cas, quand même, moi, je trouve que là, ce qu'elle a fait, ça, c'était deux spectacles, une sur la mère, une sur le père. Et vraiment, il y avait c'était des formes performatives pour moi. Et je me suis dit, c'est fou comme ça influe sur le théâtre. Après, peut-être que Anne, t'étais pas d'accord avec...
Pas ça.
Non, mais c'est
non, c'est, moi j'ai vu Angelica Lidl au théâtre de l'Odéon.
Oui, c'est ça, c'était l'Odéon.
Et c'est vrai que c'est une actrice, une performeuse, mais incroyable, en fait. Et il y a effectivement comme ça des acteurs, des actrices qui ont cette capacité de. T'as l'impression qu'ils disent le texte pour la première fois de leur vie. Mais en fait, le texte, il est complètement écrit, il est su par cœur. Donc j'ai déjà croisé plusieurs fois, même au générateur, il y a eu des malentendus avec des projets où moi j'avais l'impression que c'était une performance, en fait, qui le lendemain c'était exactement la même chose. Mais c'est pas un reproche, hein. C'est juste il y a effectivement de la part de tous les gens du théâtre une grande attirance vers la performance, parce que c'est normal, il y a quelque chose qui se libère, qui permet peut-être d'accéder à une forme dépoussiérée qui semble et qui est plus actuelle, mais quand même c'est dur pour les gens de théâtre de lâcher la prise quand même sur un texte qui est su par cœur. Mais c'est pas un reproche, moi j'admire
la non-expertise, en fait. On n'est pas là pour arriver avec un produit fini hyper béton, au contraire on s'empare du présent et avec une idée, en fait. J'ai l'impression qu'il faut un fil rouge, quelque chose qu'on a envie de défendre. Ça peut être ça peut s'exprimer de plein de manières différentes, mais oui, c'est juste.
Mais Angelica Lidl, peut-être que ça se rapproche de la performance, parce que c'est très personnel ce qu'elle écrit.
Absolument.
Donc il y a un truc des tripes
existentielles,
qui pour moi est très important dans la performance. C'est vraiment tu peux pas dire à quelqu'un d'autre que toi de faire ce que tu es en train de faire.
Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi la performance vient énorme, enfin a vraiment aussi s'est développée très fortement dans les années 60-70 par des artistes femmes qui étaient absolument mises sur le côté dans le domaine de l'art, les arts plastiques, parce qu'elles n'avaient pas la place, et c'était une manière pour elles de revendiquer enfin des idées féministes, parce que il y avait une chape de plomb sur leur pratique, en fait.
Tu reviens bien à ma question qui était: est-ce qu'il y a vraiment un potentiel revendicatif, révolutionnaire, disons le mot, dans la performance?
Absolument. Oui. Ça dépend ce que chacun...
Dans l'histoire de la performance, dans
oui. Ah oui. Oui. Mais carrément. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je dirais que... Ouais. Peut-être que... Oui, c'est... On est quand même peut-être trop dans un pays, je dirais même trop riche à la limite, où je sais pas, il y a les on peut plus affirmer de manière aussi comme ça binaire une idée révolutionnaire, quoi.
C'est l'idée, ou en tout cas la révolution, qui est plus difficile peut-être à faire maintenant qu'avant.
C'est ça.
Mais peut-être que
mais elle est sous-jacente.
Oui. Après, pardon, sans parler de révolution, Claire parlait de colère, tout simplement. Il y a ça aussi. Hein.
Ouais. Oui, de la colère, ça, je pense que c'est un sentiment qui a existé de tout temps. Mais là, on est dans un grand temps merveilleux de la récupération totale, en fait, et de l'intégration de la contre-culture à la culture, et du relativisme ambiant. Oui. Tout vaut tout, et du coup, rien ne vaut rien. Donc, chers amis spectateurs, rendez-vous compte un tout petit peu. Vous allez pouvoir voir, justement, faire votre marché. Vous voyez, ça, vous allez prendre votre caddie culturel, vous allez sortir de votre centre culturel habituel, puis vous allez venir à Gentilly, donc à partir du 3 octobre jusqu'au 17. Et là, vous allez voir, en fait, est-ce que ça vous intéresse d'autres produits? Voilà, des produits de petits producteurs locaux, voilà, que vous ne retrouverez pas dans les grandes surfaces culturelles. Ça, désolé, vous ne retrouverez pas à la FNAC. Donc, ça peut être intéressant, justement, parce que cette période, je trouve, la colère, on ne sait pas trop bien où la distribuer. Et on se moque, tous les slogans de 68 sont détournés par les publicitaires depuis une vingtaine d'années, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, l'art de la récupération est devenu un art capitaliste par excellence. Voilà. Et alors moi, j'ai mon ami, vraiment la personne que j'ai, je tiens en premier, number one sur une liste, qui s'appelle Jeff Koons, que vous connaissez peut-être pas. Surtout, n'allez pas voir ce qu'il fait, parce que ce sera lui donner le moindre crédit. Juste oubliez son nom, puisque je viens de le dire, c'est déjà trop tard. Lui, ce brave homme, en fait, fait profession d'être milliardaire. Il fait ça avec de l'art, mais il pourrait faire ça tout aussi bien avec des déchets radioactifs très faibles, voilà, à enfouir dans un pays du tiers-monde de préférence. Enfin bref, il a plein d'idées pour faire de l'art. Donc, mais pour moi, c'est typiquement le pauvre, enfin la pauvreté de la récupération et du faux kitsch. Voilà.
Bon, eh bien, merci Jean-François. Nous allons faire la réclame donc de la publicité, la publicité de ce qui va se passer le samedi 3 octobre à Gentilly lors de la Nuit Blanche. Et donc c'est la Nuit Blanche. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, Léa, est-ce que tu as des propositions dont vous voudriez plus parler avant qu'on parle de nos invités
ou... Oui, donc pour cette nouvelle édition, on a à nouveau reçu le soutien de la Métropole du Grand Paris, ce qui nous permet de déployer davantage le format dans plusieurs espaces. Donc pour la première fois, on va investir notamment le parc Pablo Picasso, qui se trouve pas très loin du générateur, donc un parc super joli qu'on a découvert par la même occasion. En tout cas, personnellement, je l'ai découvert. C'est l'occasion aussi de voilà, découvrir un peu ce qui se passe à 500 mètres du générateur. Et donc dans ce parc, on va réunir plusieurs artistes, plusieurs propositions, dont une qui s'appelle Carnaval, qui va être un défilé, un bestiaire de danseurs avec des costumes sonores. On aura également Show Your Frasque, dont le fameux format dont Catherine Ursin ici présente, Jean-François Rey et aussi Claire vont faire partie. Donc ce format où on a une... Et Laurent aussi d'ailleurs, mais dans le son toi. Donc on aura une vingtaine de performeurs qui vont évoluer comme ça dans le parc avec des propositions complètement différentes et c'est toujours ce monde Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc ça ce sera à Show Your Frasque.
Ça ce sera au...
Tout ça dans le parc Pablo Picasso. Ouais.
D'accord, en même temps comme vous avez...
Tout en même temps, en simultané, ouais.
Et alors, il y a une déambulation, il me semble.
Bah, c'est avec Carnaval, oui.
Ouais, c'est ça.
Donc elles commenceront dans le parc. Ouais. Et elles finiront au générateur. Donc ça, c'est tout au long de la soirée.
Oui, il y a à peu près une trentaine d'artistes dans le parc Pablo Picasso pendant 4 heures, de 19h à minuit, et qui investiront les différentes parties du parc. Et c'est aussi une première pour la ville, parce que Nuit Blanche, non, puisque on a commencé la Nuit Blanche, l'événement Nuit Blanche en 2006, à l'ouverture du lieu. Mais c'est la première fois qu'on invite les gentiliens à venir le soir dans le parc Pablo Picasso. Le parc n'est jamais ouvert la nuit, donc il y a un espèce de pari quand même aussi, assez
petit challenge technique.
C'est en raison des conditions sanitaires, comme on dit.
Ben en fait, moi je me suis dit, quel que soit ce qui se passe, il faut vraiment mettre toute la gomme à l'extérieur. Et puis c'est un très joli parc, donc on nous avait déjà aussi dit l'an dernier, développer plus la dimension espace public, parce que c'est ça notre mission. Oui. Mais là, c'est plus important et donc on espère que le public viendra nombreux, et c'est tout notre travail là pendant 15 jours là, faire de la pub, des signalétiques dans tous les sens.
Ah oui, ben, je me souviens moi d'une déambulation qui avait amené au générateur il y a quelques années.
C'était avec Charles Penquin.
Oui,
alors, Penquin, moi,
ouais, la Manifesta.
Oui. Enfin, il y en a eu plusieurs, je pense. Mais moi, je voulais savoir, moi, ça fait penser aux manifestations, tu sais. Voilà. Est-ce qu'il y a une idée comme ça de se réapproprier l'espace public, de gueuler dans la rue, quoi, tout simplement.
Ça, je sais pas
faire
si.
Faire le con dans la rue, quoi.
Bah, à la base, on n'est pas parti là-dessus, mais ça peut aller de pair aussi, effectivement, avec le contexte actuel. Mais l'objectif de base, c'était vraiment de faire une programmation en extérieur pour entrer en accord avec les règles sanitaires en vigueur, en fait.
Et puis parce qu'il y a derrière quand même une volonté du soutien qu'on reçoit de la métropole du Grand Paris et de la mairie de Paris et de la ville de Gentilly, bien sûr. Ça nous permet d'accéder sans doute à un public qui ne viendrait jamais au générateur.
Oui, parce que le programme là que vous avez sous les yeux, vous, et qui est accessible sur notre site internet, a été distribué à 9000 gentiliens, par exemple.
Ah, super.
Donc on a une force de frappe en com qui autrement n'est pas possible
d'habitude. Et il y a aussi un autre, je te laisse décrire, Léa.
Oui, donc on était donc à Carnaval, donc Show Your Frasque, Et on a aussi Reiko, donc plusieurs danseurs qui vont être là avec des grandes structures cubiques dans lesquelles en fait on peut faire des entraînements, découvrir en fait une partie un peu plus animale et organique dans le mouvement. Donc ouais, ça occupera aussi le parc Pablo Picasso.
Ça, ça les spectateurs peuvent les utiliser si je
Ouais, exactement. Ouais. C'est, ce sera en accès, aux enfants aussi, surtout quand même.
Ah, oui.
Mais
d'accord,
pas que, mais bon, une partie qui sera adressée aux enfants. On aura également une lecture performance d'Anne Sarah Fagé. Voilà, qui a pour objectif de lire en continu toute la soirée dans le parc des textes, voilà, de la poésie.
Il y, y a des choses au générateur aussi.
Oui, ouais. Donc ça, c'est juste la partie parc Pablo Picasso. Ouais.
Ensuite, je voulais juste préciser qu'elle lit des textes de Sonny Laboutanci, qui sont juste merveilleux. Ah, il faut vraiment écouter parce que c'est juste magique. Quoi.
C'est un auteur congolais, c'est ça, oui.
Congolais,
non,
peut-être.
Oui,
Et donc ensuite, on aura le service, le parvis du service culturel.
Bah, il faut quand même citer Catherine et vous, tu les as déjà cités.
Bah, c'est dans Show Your Frasque.
Catherine et Christine qui vous allez faire un duo dans Show Your Frasque, dans le parc.
Oui. Oui, moi je travaille souvent avec une autre performeuse qui s'appelle Christine Coste et on travaille beaucoup la matière, notamment la terre, solide, liquide. Mais peut-être qu'on pourra en reparler.
Oui,
tout
on va
à
en revenir. Oui, oui.
Donc le deuxième site, c'est le parvis du service culturel de la ville, qui se trouve juste à côté en fait du parc, où là il y aura la structure d'Elizabeth St. James, un gros blob géant en fait qu'on a déjà accueilli sous une autre forme plus réduite l'année dernière dans le générateur. Et donc là, elle a démultiplié en fait ce format, et il y aura des danseurs en fait qui seront à l'intérieur et qui font bouger la structure, etc. Donc c'est super spectaculaire pour le coup, et ça occupera tout le parvis. Donc là, c'est vraiment aussi du spectacle. Ouais. Et ensuite, donc on continue la déambulation jusqu'au générateur, où là on aura trois propositions. On aura Bernard Bousquet, donc le cofondateur du lieu, qui expose des toiles sur tissu gigantesques. Qui a des, les toiles ont déjà fait l'objet d'ailleurs d'une performance et d'une expo là qui s'est terminée la semaine dernière en fait. Mmh. Et donc on conserve ces toiles et elles continueront d'habiller comme ça tout le générateur, donc c'est vraiment magnifique. Avec des scoopitons de Laurent Melon, donc un artiste aussi génial, qui est aussi associé à Nigra, au générateur.
Qu'on connaît bien ici. Hein.
Et que vous connaissez très bien.
C'est comme une rétrospective de ces scoopies.
Voilà. Ah, et voilà. Et donc 20 ans de scoopitons qui seront projetés sur les murs du générateur. Et on aura une performance avec Jeanne Susplugat et des marionnettistes en fait.
Ah oui. Alors, donc, ça m'intrigue ça.
Ouais, c'est assez intriguant moi-même. Ouais. Personnellement, je suis super intriguée aussi parce que je ne sais pas du tout. Ouais.
C'est un format assez intimiste. Hein,
donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs séances.
C'est ça.
Il y a quatre séances.
Comment on fait, on s'inscrit sur Internet,
je sais pas. Non, ce sera le soir même.
Sur place.
Ouais. Donc c'est une performance, en fait les marionnettes sont toutes à l'effigie de femmes qui ont vraiment connu des violences intrafamiliales, etc. Mmh. Et donc c'est toute une série de témoignages sur ce sujet-là. Donc j'ai hâte de voir comment c'est retranscrit par la marionnette en fait.
Parlons, si je peux intervenir, enfin je veux dire rebondir, parce que c'est comme ça qu'on dit en bon français, sur ce que tu viens de dire. Non, on ne s'inscrit pas sur Internet. Non, ce n'est pas le monde dont on a envie. Parce que moi aussi, dans les musées, bientôt, on va devoir s'inscrire sur Internet.
C'est fait déjà. C'est
obligatoire, ça y est. Oh purée, je suis déjà du monde d'avant, c'est déjà le monde de demain. Donc c'est juste une horreur, c'est-à-dire que bientôt, effectivement, enfin non, maintenant, on ne peut plus rester 20 minutes devant une œuvre si on a envie. Parce qu'il y a un groupe d'autres personnes qui ont réservé le créneau horaire. Voyez comment on vit dans un monde merveilleux. C'est tout ce que, eh bien, je crois, le générateur propose d'inverse. C'est-à-dire, comme le disait Catherine, c'est que c'est à vous de faire votre spectacle. Il y a des propositions et c'est vous qui piochez. Et vous n'avez pas besoin de réserver sur Internet.
Moi aussi, je voudrais rebondir et rejoindre ta question de tout à l'heure sur la manifestation. Parce qu'effectivement, c'est pas tellement un discours militant avec un contenu, tu vois, politique, voilà. Mais en acte, effectivement, le fait de solliciter une attention du spectateur, de lui permettre un questionnement, de l'inviter à voir les choses autrement, que ce soit le parc Pablo Picasso, que ce soit le théâtre et la performance, ce travail-là qu'il va faire pour s'approprier éventuellement, tu vois, là où il est et ce qu'il voit, peut de fait l'amener après à prolonger son action, y compris sur le domaine politique, y compris par des manifestations ou d'autres engagements. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez profond en fait qui se joue là et qui n'est pas forcément lié à un contenu précis revendicatif donné.
Pardon, si, excusez-moi encore, juste, ça n'est que mon point de vue, mais je trouve que on manipule vachement mieux les gens, en fait, pas en leur disant le message final qu'on veut leur inculquer dans le cerveau. En tout cas, c'est ce que les ennemis de la liberté savent très bien faire. Donc je pense que c'est intéressant de prendre leurs moyens. C'est-à-dire, c'est pas en donnant le message brut de décoffrage, mais en les divertissant. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas primo, c'est pas hyper politique. Mais effectivement, une fois qu'on a commencé à faire son marché, à devenir autonome, en fait, du point de vue de son de ses choix culturels lors d'une soirée, pourquoi on n'aurait pas envie de pousser un peu plus loin l'autonomie dans d'autres domaines ?
Bah, très bien. Alors, peut-être, on va faire une pause musicale, mais après, je crois que tu vas devoir t'en aller, Jean-François, c'est ça que tu...
Mais ça y est, je suis déjà parti, parce que j'ai réservé, justement, je vais au Louvre, là, et j'ai mon créneau horaire, et je voudrais pas, ça coûte tellement cher, il faut absolument que j'y aille. J'aurais pas raté la Joconde.
J'espère que tu nous enverras un selfie de toi avec la Joconde.
Ah ouais, trop cool. Ah, ce serait super.
Mais peut-être tu peux dire aussi, enfin si tu as envie, mais ce que tu vas faire dans Chouillou Frasque.
Bien sûr que non. Bon. Je ne dirai absolument pas ce que je vais faire, parce qu'en fait, moi, je fais pas de pub. C'est-à-dire que, mais c'est mon point de vue, hein. C'est ici et maintenant. Vous venez pas, c'est pas grave. Vous vivrez très bien sans moi et sans ma camarade, Sonia Codan, pour ne pas la nommer. Et puis, vous viendrez et vous vivrez très bien aussi. Vous verrez, c'est sans douleur.
Eh ben, merci. On va écouter Rain. Alors, c'est qui Rain? C'est quoi?
Rain.
Rain.
Ouais, Rain. Eh bien, elle a fait un mix samedi dernier pour l'expo justement de Bernard Bousquet Réciprocal, pour accompagner et dialoguer avec la peinture et avec des danseurs ouais. Qui sont
super
venus,
danseurs qui
nombreux.
Étaient venus.
Et il y avait trois DJ, on va dire trois musiciens. Il y avait HBT, Julien Aguenoer, Rain et notre cher Laurent Melon.
Ah,
donc trois styles très très différents.
Ouais, Rain est une jeune artiste qu'on suit depuis un moment et qu'on soutient et qui est bassiste, qui est aussi batteuse.
Ah, super.
Et donc, elle se lance aussi depuis un moment dans le DJing qu'elle réussit vraiment très bien, en fait.
Donc là, on,
donc, on va voir tout de suite d'ailleurs ce que ça donne avec l'un de ses...
Juste un extrait, hein, c'est juste un extrait de 4 minutes.
John and I took those footage, and afterwards we saw it on the screen. We were saying, oh well, how are you going to edit this? Because there's so much of it.
Un coussin, un canapé, une grande pièce faite de miroir, une ambiance art déco, c'est son nom.
Radio Liberté à la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée à la 12e édition du festival Frasque. Alors parlons de Show Your Frasque. Show Your Frasque. Peut-être vous pourriez nous rappeler le principe.
Alors le principe, il y en a plusieurs. En tout cas, l'idée première était de trouver une manière de révéler la performance d'une manière justement moins classique que ce qui avait été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que Show Your Frasque a commencé en mars 2018 et moi je m'essoufflais, et mon équipe aussi, à programmer de la performance finalement, comme c'est quand même encore un peu le cas, c'est toujours quand même très, très chouette aussi d'avoir une performance après l'autre, mais ça générait une grosse logistique technique, de com, et finalement à force, au bout de plusieurs années, ça devenait très lourd. Donc, j'ai eu une longue discussion, plusieurs échanges avec David Noir, en lui disant que je voulais vraiment trouver autre chose, quoi, pour nous alléger les épaules et puis aussi rafraîchir l'approche et l'accueil aussi des artistes. Et donc, il a eu cette idée, il s'est inspiré du show de Gilbert et Marie
Carpentier,
oui. Qui étaient des producteurs très connus à la télé, yeah. Et qui comme ça tous les 3 semaines je crois rassemblaient leur équipe, costumiers, artistes, chansonniers, tout le monde, hop, à table, voilà, on a ce sujet là vous bossez tous et on se retrouve le soir même, vous travaillez là-dessus sans filet ou presque, et c'était du direct, hein. Donc moi j'ai fait comme ça, et puis de fil en aiguille on est arrivé à transposer première fois un peu ce système, et ça s'est enrichi tout seul ou et ce qui était très important en fait, c'était aussi et ça on le dit peut-être pas assez, c'est que ça permettait aussi de faire baisser les égos aussi des uns et des autres. Enfin, c'est pas que ça soit pas, il faut des égos bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que faire de l'art, qu'est-ce que c'est que faire un spectacle, il y a quand même quelque chose de très auto-centré, d'affirmation de soi qui... Est-ce que, franchement, c'est intéressant? Non, en fait. Donc, David a intégré aussi cette notion de Show Your Frasque, c'est un endroit où, justement, on ne sait pas faire. On revendique le fait qu'on ne sait pas. Et c'est pas un endroit où on va prouver son savoir-faire, sa technique, ses connaissances, mais au contraire, un endroit où on peut défaire et expérimenter d'autres chemins. comme tu disais tout à l'heure, Claire.
Peut-être c'est en ça qu'on peut voir une dimension un peu révolutionnaire, au sens où à partir du moment où ça ne nécessite pas une expertise, bah, n'importe qui peut s'emparer de cette forme-là, en fait. Et, ouais. Et puis, parce que moi, je me dis souvent, la lutte sociale, le militantisme, c'est un peu épuisant à tous les niveaux, et que du coup, pour que ça devienne quelque chose qui nourrit, il faut en faire quelque chose de créatif. Et c'est un peu ce que les perspectives écoféministes actuelles proposent, je trouve, mais de rendre le militantisme joyeux, créatif, parce que ça représente aussi une forme embryonnaire de proposition pour ce qui pourrait advenir, ce qui pourrait être autrement. Et là, y a une horizontalité de cette forme-là qui est super joyeuse, quoi. Mmh.
Une égalité en acte, puisque de toute façon, à partir du moment où on se met en position des limites de ce qu'on sait faire, ben, on est effectivement tous sur un pied d'égalité.
Oui, et puis la règle qu'on s'est donnée, c'est qu'on se rencontre tous trois semaines avant, et on se retrouve le jour même, deux heures avant, ou parfois il y en a qui arrivent cinq minutes avant. Donc il n'y a pas de déroulé, il n'y a pas une règle, enfin, comment dire, un script qui est imposé pour la soirée du tout. Ouais. Donc les spectateurs se retrouvent au même endroit que les artistes.
L'atout du générateur, pour ceux qui viendraient le 3 octobre pour la première fois, c'est que c'est quand même, il faut préciser, un lieu grande dimension. Si les gens s'imaginent un théâtre à l'ancienne ou quoi, effectivement, ils auront peut-être un peu de mal à concevoir ce dont il s'agit. 400 mètres carrés, 400. 25 mètres de large, 15 mètres de quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'est aussi un espace à l'intérieur entièrement vide, donc qui peut être redéfini et rebâti, reconstruit complètement. Il n'y a pas effectivement une occupation classique avec des gradins, un endroit, etc.
Pas d'ordre donné.
C'est hyper important. C'est ça aussi qui permet de réinventer les choses. C'est qu'on a un lieu très ouvert et puis très vaste. On peut donc être tous ensemble à l'intérieur sans forcément non plus marcher sur les pieds. Le spectateur peut effectivement être à un endroit ou à un autre. On verrait déambulation à l'intérieur. Je pense que le parc Pablo Picasso, ça va être le même genre d'intérêt aussi de pouvoir à différents endroits faire cohabiter des choses, et puis voir si ces rencontres, et puis investir les lieux, et que le spectateur lui-même l'investisse à sa façon, quoi.
C'est sûr, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ordre donné, d'ordre vraiment commandement dans la salle d'emblée. C'est toujours une page blanche. C'est formidable, et en même temps parfois c'est très troublant, parce que nous qui vivons les événements qui passent les uns après les autres, c'est tellement riche, et puis ça disparaît parce que c'est la règle.
C'est le même milieu, en fait.
Voilà, c'est à chaque fois, c'est on passe d'un univers à un autre. Je peux dire aussi que ça, c'était un parti pris, mais ça, je m'en suis rendu compte par ma pratique de danse aussi, où j'ai vu la limite évidemment de la scène et des spectateurs, ce côté très lisse, et de partager le même sol, déjà apporte quelque chose de très très spécial. C'est physique. On a un sol qui est uniforme, qui va de la rue jusqu'au fond de la salle. Eh bien, les spectateurs comme les artistes, on est sur le même sol. Et c'est quelque chose qui est très central dans... qui caractérise.
Après, les enjeux de pouvoir sont jamais, on les laisse jamais à la porte. Ils réapparaissent toujours d'une certaine manière. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que dans Show Your Fresque, ça se joue dans la problématique du son, parce que donc il y a un micro et de la musique. Et finalement, là où on a le plus de mal à aller vers cette horizontalité, cette écoute qui est liée à l'improvisation, c'est dans le son. Donc, je sais pas, je trouve que c'est intéressant de s'interroger là-dessus quand on travaille à plusieurs, quoi. L'espace sonore devient beaucoup plus, devient l'endroit où on essaye de se marcher dessus d'une certaine manière, parce que l'espace visuel est complètement aplati. Donc, je sais pas,
c'est la nature du phénomène sonore. C'est-à-dire que le son, effectivement, est beaucoup moins directionnel la vue qu'on a devant soi, alors que les oreilles sont sur le côté. Donc, là-dessus, c'est clair, en tout cas, que les enjeux de pouvoir sont jamais absents. Moi, je voulais aussi quand même rebondir sur cette question des enjeux de pouvoir. Il y a un endroit où il se joue aussi, c'est la réunion de préparation. Et là, ça se joue en termes de parole. C'est-à-dire qu'on est toutes autour, on est face circulairement en général autour d'une même table, on va dire, s'il n'y a pas de table, et on peut dire ce qu'on a envie, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et là, je pense que là aussi, les enjeux de pouvoir se jouent, mais d'une façon, à mon avis, relativement démocratique à ce moment-là. Tu vois, c'est aussi une façon de ne pas les cacher, ces enjeux de pouvoir.
Oui, bah, le sujet revient à chaque fois, à chaque débrief, du coup, mais c'est intéressant quand même.
Ah, c'est essentiel. Ouais,
Mais justement, c'est juste cette réunion qui est très courte de pseudo-préparation, parce que c'est pas vraiment une vraie préparation, mais chacun exprime ce qu'il aurait envie de faire. Ou du sujet qu'il a envie de traiter, permet aussi de réfléchir comment trouver des liens, comment trouver des rapports à l'autre, comment, pourquoi celle ou celui qui propose quelque chose résonne avec ce que nous-mêmes on a envie de faire. Et ça, c'est quand même super important parce que ça remplit notre boîte à outils dont parlait Anne tout à l'heure.
Et je pense qu'au début de Show Your Phrase, qu'on était, enfin, ça fait déjà maintenant 2 ans et demi. Presque, ça va être la 10e édition, là. Oui, la 10e édition. Il y a aussi quelque chose qui s'est construit entre les artistes de confiance. Ouais. Enfin, ça, c'est une dimension qui au début.
Souvent, des artistes qui reviennent, qui ont participé plusieurs fois.
Donc, cette confiance qui est déjà là apporte, je pense, énormément à la qualité de l'événement, de la performance collective. Et après, il faut faire attention qu'on tombe pas non plus dans un confort d'habitude. Donc c'est plutôt souvent, ça a été aussi pas la prise de pouvoir, mais comment déconstruire ou bousculer pour se retrouver un peu nouveau.
Justement aux limites de ce qu'on sait faire.
Mais par contre, je trouve que ce format amène vraiment comme la performance est vraiment comme un don de soi, je vais dire, j'utilise peut-être des mots un peu balèzes, mais c'est un petit peu ça. Et dans ce format-là, on est obligé d'écouter l'autre, quoi qu'il arrive. Et ça, je trouve que cet aller-retour entre le soi et l'autre qui donne du commun, du coup, est super intéressant. Et je pense qu'actuellement, c'est ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours aussi.
Au parc, c'est vrai d'être très différent, parce que le générateur, c'est une salle qui résonne beaucoup. Donc le moindre son remplit très vite la salle. Évidemment, quand on est en extérieur, ça diffuse énormément. Donc ça va sans doute aussi rejouer les relations de pouvoir et voir comment ça se passe de façon intéressante.
Alors peut-être on va parler de... Parce que nous avons trois des artistes qui vont participer à Show Your Phrase. Catherine, peut-être tu peux nous présenter qu'est-ce que tu fais. Je pense, j'ai vu que tu étais plutôt dans les arts plastiques. Tu peins.
Oui, je peins, mais en fait, le truc, c'est dans les performances, c'est vraiment la rencontre de l'autre. Et de travailler avec d'autres artistes qui ont d'autres domaines, les mêmes que moi. Et ça, je trouve ça très, très enrichissant. Et justement, ça remet en question l'artiste, le moi et tout ça. Parce que des fois, c'est un peu lourd, quoi, de tout le temps travailler seul à l'atelier et d'être toujours dans sa propre problématique. Donc, l'ouverture à l'autre est très importante. Et la performance permet ça. Donc, pour le générateur, j'ai essentiellement travaillé avec Christine Coste, qui est une artiste plasticienne céramiste, donc qui travaille beaucoup la terre. Ce que moi je ne fais pas du tout. Et du coup, on a monté, je dirais plus, toujours cette histoire de boîte à outils et qu'on utilise. Donc ça nous fait des fils conducteurs. Et là, donc pour le jardin Pablo, on s'est dit qu'il y avait des arbres. Donc, il y a aussi tout l'environnement qui joue beaucoup. Ça, c'est super important parce que le fait de se retrouver dans un parc. C'est de la pelouse, donc on s'est dit qu'on pouvait faire des choses au sol et que même si on tombait, on ne devrait pas se faire trop mal. tout ça, ça compte en fait. Le fait qu'il y ait des arbres, et après on travaille avec ce qu'on sait quand même faire, qui est notre outil. Et en espérant justement qu'il se fasse des liens justement avec d'autres, notamment avec la musique aussi, puisque quand on sait qu'il y a des musiciens, nous le fait de taper la terre nous fait faire des rythmiques, mais on n'est pas musicienne. Et on aimerait bien que si on arrive à faire des rythmes, d'un seul coup ça interpelle un musicien. Mais peut-être que ça se passera, mais peut-être que ça se passera pas. Et c'est pas grave. Puisque c'est ce qui se passe au moment, et c'est des histoires de feeling aussi, quoi.
Et j'avais l'idée, alors peut-être tu vas trouver ça un petit peu bateau, mais est-ce que la performance pour toi, c'est le... Comment dire, est-ce que c'est un genre de tableau vivant? Non, est-ce que ça a rapport avec...
Ouais. C'est la vie, c'est la vie, donc c'est forcément.
Ouais, par rapport à ta pratique de faire des.
Ah, par rapport à la, l'histoire par, de la peinture.
Par rapport à la peinture.
Pas l'histoire, mais ton histoire.
Oui, oui. Heureusement, je ne représente pas l'histoire de la peinture. Mais après, après moi, j'ai une pratique, je fais des très grands dessins. Ah oui. Donc, c'est aussi l'investissement du corps dans, ah oui. et le rapport entre la peinture et le corps. Après, je fais de la sculpture, je découpe des bidons. C'est hyper dur. Je crois que j'ai plus de muscles et tout ça. Donc, c'est aussi un combat. Donc, en fait, même dans ma pratique seule...
Très physique.
Et déjà, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est ce rapport au physique. Et, ouais. Et la performance permet d'emmener plus loin ça et surtout le rapport à l'autre. Quoi. Ah oui. Ça, pour moi, c'est primordial. Ouais.
Et toi, Claire, mais alors, est-ce que tu es dans Chouillot Frasque, hein, oui ?
Oui.
Parce que tu y as Fata Morgana aussi. C'est autre chose.
Oui, alors en fait, du coup, moi, je fais une petite résidence générateur. Non, mais du coup, je suis dans Chouillot Frasque le 3 octobre et le 10 octobre. Ah, ouais. Là, c'est du coup quatre cartes blanches,
ouais.
Dont une, ce sera moi.
D'accord.
Voilà. Et enfin voilà. Et du coup je dis les deux trucs que je fais.
Bah, vas-y, ouais.
Alors voilà, le 3 octobre, donc moi typiquement sur l'espace, c'est en visitant le jardin que j'ai eu l'idée de ce que je voulais faire. Et donc parce qu'il y a un grand tronc qui est coupé et assez haut quand même, et du coup j'ai eu envie de, puis il est au milieu d'une pelouse assez dégagée, et donc j'ai eu envie de faire une statue. Les statues qui s'animent quand on donne de l'argent, mais plutôt comment, parce que en fait historiquement il y a eu un peu une, ce qu'on appelle une période, enfin il y a eu une statuomanie à la fin du 19e et début du 20e avec la 3ème République, où on a érigé plein de statues dans les villes, dans l'espace public, pour diffuser un message, presque c'était de l'éducation, quoi. On voulait, c'était la période des grands hommes. On passait de statues de rois à des statues de citoyens censés proposer des modèles. Ça. Bon, alors bien sûr, il y a eu 90% de statues masculines, mais il y a eu des statues féminines, notamment des statues de Jeanne d'Arc, qui réconciliaient un peu tout le monde, et des statues d'autres femmes qui étaient, elles, dans des parcs, souvent. George Sand, elle est dans un parc, et puis elle est représentée avec une grande robe très mélancolique, pas du tout les cheveux courts, socialistes. Là, on est dans un jardin, et donc ça reprend un peu cette chose-là. Et finalement, comment faire parler les statues pour les sortir de ce statut d'objet, quoi, et quel rapport on entretient avec elles, quelle mémoire elles proposent, parce que les statues, c'est quand même ce dont on choisit de se souvenir, qu'est-ce qu'on choisit de commémorer. Et donc, au-delà d'une problématique de représentativité, c'est tout à coup, si les statues, elles sont faites pour délivrer des messages, le faire pour de vrai, quoi, sans faire de messages, mais ça peut, enfin, du coup, j'ai des poèmes, des chansons, ou juste des postures, et voilà, d'explorer ça. Puis d'être en haut d'un arbre quand même pendant 4 heures, ça fait quelque chose. Même, j'ai pas l'habitude d'être haute, je mesure 1m60.
C'est un vrai questionnement plus actuel sur toutes les statues qui se font déboulonner en ce moment.
Bien sûr.
Et la statue de Louise Michel
Oui, la statue de Louise Michel à Levallois, qui est représentée en institutrice avec une petite fille qui la regarde tendrement et un petit chat à ses pieds, alors que c'était quand même une anarchiste qui allait sur les barricades, fait exiler. Enfin, c'était quand même une figure de guerrière, quoi, extraordinaire. Donc voilà, se réapproprier ces symboles-là.
Ah bah super. Et alors, Fata Morgana, on peut en parler tout de suite alors.
Ah bah oui, bah du coup, le 10 octobre, là, c'est Fata Morgana, donc ça veut dire, c'est la fée Morgane, mais c'est aussi le nom d'un mirage très complexe qui se produit surtout en mer. Et c'est pour ça que on parle de l'illusion du Hollandais volant.
Ouais.
Et du coup, où on peut avoir l'impression de voir un bateau voler, enfin être au-dessus de la mer. Et donc, je voulais partir de Enfin, je trouve que ce mirage, il m'intéressait parce qu'il y a à la fois une figure mythologique, donc la fée Morgane, et toute la construction d'un récit imaginaire autour de ses pouvoirs, qui fascinent autant qu'ils font peur. Et ce travail-là, il s'inscrit un peu dans une réflexion sur les symboles qui nous entourent, et un peu comme les statues, que souvent enfin pour moi les symboles c'est quelque chose qu'on ne voit pas par définition. Un symbole, on décide que c'est un symbole si on le décrit comme tel. Bon après il faut pas tomber dans une psychose, mais c'est plus comment est-ce qu'on prend conscience des symboles qui nous entourent et qui ont une influence sur sur nous. Mais parce que tout, c'est juste un biais cognitif, la fréquentation de symboles qui convergent tous dans un même sens produisent des choses sur nous en tant qu'individu et en tant que société. Et du coup, je voulais réfléchir à ces symboles de femmes prophétesses qui ont des prédictions, voilà, et donc travailler sur ça aussi. Avec une ambiance autour de la mer, parce que c'est un espace où tout se floute. Et voilà, donc travailler sur les prédictions imaginaires, absurdes, auxquelles on a envie de croire, parce qu'on a, on est un peu, on a tellement faim de savoir ce qui va se passer vraiment, d'avoir enfin des réponses aux questions qu'on se pose. Et donc la figure de la fée et de la prophétesse, elle permet un peu d'interroger ça.
Alors ça sera le 12 octobre.
Le 10.
10, pardon. Pardon.
Voilà.
Et voilà. Donc on va passer un peu de musique. On va passer Laurent Pascal, mais peut-être il faut signaler aussi qu'il y aura deux musiciens, donc un tromboniste,
ouais, Emmanuel Ferraz et moi-même.
Et toi, ouais.
Le jour de là, on revient à parler donc de Choyant-Frasque, ouais. le 3 octobre pour la Nuit Blanche, effectivement.
Qu'est-ce que tu vas faire, Laurent?
Ben, j'en sais rien. Non, je vais être là, déjà. Je vais avoir de quoi faire un petit peu de son, pas trop. Et puis, il y aura mon camarade donc au trombone qui sera là aussi. Je pense qu'on va faire de la soupe. Au sens où on va faire un genre de comment on appelle ça, de bouillon, quoi, tu vois, un peu
de l'habillage sonore,
ouais, ou des habillages. En tout cas, moi j'y vais plutôt pour foutre la merde, mais gentiment, hein,
oui.
Voilà. Et ça va être une présence, l'intérêt que je vois, c'était un peu comme là ce qui s'est passé à Sonic Promenade le week-end dernier. C'est que moi je pense que c'est la même chose pour mon camarade tromboniste. En tant que harmoniciste ou autre, il est très facile pour moi de me déplacer. Donc j'ai un autre rapport encore au lieu, puisque déjà les sons d'harmonica c'est pas très fort, et par contre je peux les déplacer d'un endroit à l'autre, et donc vraiment faire des formes sonores qui soient dans l'espace, alors que c'est vrai que la logique sonore est plutôt d'habitude dans le temps. Là il va y avoir ça, une présence incarnée par des sons et qui révèle des lieux, voilà, très modestement, hein, bien sûr.
Je propose qu'on écoute quelque chose que tu as fait en 2015, je crois, ici même en direct. Alors c'est un extrait, c'était un monologue, c'est la série des monologues, et tu avais
si je me souviens bien, il y avait ce dont je me souviens en tout cas, c'est que j'avais dans le studio un poste de radio qui captait la fréquence de Radio Libertaire, et donc je pouvais l'arsener, mais par l'intermédiaire de la Tour Eiffel, ou tout au moins faire des échos, et puis il y avait le mot monologue que j'avais étiré, qui devait durer peut-être 45 minutes.
Voilà, monologue 40 minutes.
Qui était complètement.
Donc, ce qui fait des rythmes
structurés. Plus en alors, boucle avec le.
Là, on va écouter la partie low.
D'accord, très bien.
On va écouter 4 minutes et tu joues aussi de l'harmonica.
Ah, c'est. Oui, ça me fait plaisir de.
On écoute ça.
On garde ça.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, les oreilles libres consacrées au festival Frasque. Alors passons au week-end suivant, le 10 octobre, donc c'est bien ça, hein. Il y a François Durif avec une déambulation qui va nous emmener au cimetière. Alors.
François nous emmène au cimetière de Gentilly.
C'est le 12.
De 11h à 12h30.
Voilà, le 10 octobre, rendez-vous au générateur. Oui. C'est une étape de sa résidence d'écrivain qu'il a eue toute l'année dernière et qui va s'achever pendant Frasque avec à la fois cette promenade ouverte au public pour découvrir aussi le quartier pour aller jusqu'au cimetière. Et ensuite, il présentera le 12 sa publication. On a fait un journal. Il a fait un journal de ses écrits et qui, comme ça, résume de manière littéraire et par les textes aussi écrits pour l'occasion de sa résidence d'écrivain. Mmh. Et on croise les doigts. Là, il est en train de finir le livre qu'il propose actuellement à un éditeur, je ne dirais pas lequel.
Ah.
Donc tout se passe vraiment formidablement bien là. Très très chouette moment.
Et j'étais présent à une des étapes précédentes avec le concert de Jean-Luc Guionnet où il y avait déjà eu un premier. C'était très bien aussi.
Ouais, hein, ouais.
Donc deux rendez-vous avec François Durif, le 10 et le 12. Le 12, alors c'est carte blanche à quatre artistes, dont Claire Faugoin. Tu voulais rajouter quelque chose?
Ah oui, je voulais juste dire que j'allais utiliser des extraits d'une pièce de théâtre de Caryl Churchill qui s'appelle Vocifère et serait dans la traduction d'une amie qui s'appelle Sarah du reste. Voilà.
Très bien. Alors, les trois autres artistes, il y a David Noir, j'ai même pas dit qu'on a. C'est David Noir qu'on a écouté en début d'émission. J'ai complètement oublié.
Qui est artiste associé au générateur.
Et qu'on avait reçu en 2017 ici. C'est ouais. Super, ouais. Alors, quelques mots sur ce qu'il va faire ou...
Alors, je sais juste que c'était toi, donc ouais.
C'est
un solo.
Tu es toi, c'est ça, c'était toi.
Oui. Oui. Et franchement, je peux pas vous dire à l'avance. Ah bah,
enfin, en tout cas, le texte qu'on pourra retrouver sur oui. votre site, il donne envie. Hein, vraiment, c'est quelque chose à voir avec la norme, le fait de se plier à la norme, si j'ai bien compris. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et Cyril Auclair également.
Oui, voilà, avec les attentats sonores, c'était une proposition qui devait avoir lieu le 15 mars, qui a dû être annulée en raison du début du confinement.
Ah oui.
Et c'est les résultats d'un atelier qu'il a fait, ils sont 6 ou 7.
Ils sont 8 en tout.
8, ouais. Voilà.
C'est un atelier de do-it-yourself où ils ont appris à faire des sampleurs, etc.
Oui,
et donc il y a mini recorder, la restitution. Ouais. De ce workshop, donc avec tout un tas de petits
de
appareillages qu'ils ont créés eux-mêmes en carton, voilà.
Musicaux et qui ont aussi chaque ils sont 8, donc vont faire des petites scénettes très courtes où à la fois ils vont faire jouer leur instrument créé par eux et aussi en les mettant en scène. Donc ça va être un peu des séquences entre chaque performeur.
D'accord. Ah voilà. D'accord.
Voilà.
D'accord.
Ouais.
Et il y a une quatrième proposition, Did Julius.
Oui, Did Julius qui
il va faire une performance sur Girorou. Voilà.
Ouais. Ah mais ça c'est la surprise.
Ouais.
Non mais t'as raison. Loving Blob.
Ah. Ah oui, c'est les questions du blob.
Oui.
Ah.
Et Didier qui déjà depuis longtemps vient au générateur d'abord en très très proche connaisseur et praticien des ateliers de David Noir, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah. Et puis il participe toujours aux performances d'Alberto Sorbelli. Il est là depuis le début de Show Your Frasque. Et il a aussi initié une aventure formidable qui s'appelle Zoom Your Frasque, qui nous a permis de resserrer nos pratiques et nos liens pendant le confinement.
Oui, d'accord.
Donc
oui.
C'était.
Je voulais vous demander ça. Ouais.
C'est ça. C'est lui qui a eu l'idée et nous a attiré vers ce format qui nous a vraiment amené à nous retrouver chaque semaine et bien, puis à proposer de la performance
en ligne. Alors on
en ligne.
Jean-François n'est plus là.
Voilà. Et il a participé d'ailleurs. Hein.
Ah, bah alors.
Et comment
ouais.
Hein.
Ouais, ouais. Alors il y a encore cette année Pile ou Frasque. Ça alors c'est comment dire, c'est un appel à contribution, je crois.
Un appel à participation.
À participation.
Pour découvrir de oui. nouveaux visages, de nouveaux performeurs, des nouveaux talents, éventuellement.
Et alors est-ce qu'il y a encore, parce que j'ai vu qu'il y a une date limite pour s'inscrire, tout ça, pour proposer.
C'est jusqu'au 5 octobre.
C'est.
Ouais.
C'est...
Qu'il est possible de s'inscrire.
D'accord.
Donc c'est la scène ouverte à la performance. Donc voilà. On accueille. C'est toujours en partenariat en fait avec un lieu partenaire donc et complice. Donc en l'occurrence Mika Danse.
Ouais.
Et donc, on a une quinzaine de groupes le dimanche au générateur et le mardi, donc le mardi 13 octobre, une quinzaine de groupes encore pour, enfin de propositions pour Mika Danse.
Le principe est aussi une grande simplicité d'accès, de participer à cette scène qui n'est pas une audition du tout, hein, mais qui est vraiment un endroit où des pratiques très très différentes peuvent se côtoyer. Et chacun a 10 minutes maximum, il y a deux effets lumière et on se rencontre le jour même et il y a une fluidité qui auquel on tient pour que chacun se sente en confiance. Et ce qui est formidable, c'est, je trouve, c'est que petit à petit, le public aussi devient fidèle. Et enfin, je sais pas, vous l'avez vécu de l'autre côté, mais ce qui est très touchant, c'est plus que touchant, ça rejoint vraiment la notion de performance aussi, c'est cet accueil, cette bienveillance qu'il y a, je trouve, pendant cet événement, les uns entre les autres.
Ouais.
Quel que soit l'âge, quel que soit le format, quel que soit l'expression, et le public sent aussi la prise de risque qui se réalisent sous leurs yeux et à ce titre reste extrêmement, je trouve, ouvert et accueillant.
Donc pour nos auditeurs, les inscriptions sont ouvertes.
Oui,
Très bien, si vous voulez venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il y a l'inauguration du lavoir également, c'est le 15 octobre, ça, jeudi 15 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet événement?
C'est un nouvel équipement de la ville de Gentilly qui s'appelle donc le lavoir numérique et qui va enfin ouvrir ses portes après de moult péripéties de travaux, etc. le 15 octobre. Et donc on le fait en partenariat avec le générateur, à savoir que nous, on sera la dernière partie de la soirée d'ouverture et ça se passera donc dès 20h30 au générateur avec deux propositions. Donc on aura We Use Cookies. Donc Simon Enoch et Romain Allard, un super duo dont on va entendre un morceau tout à l'heure. Ouais. Et puis on aura Laurent Melon qui va donc projeter encore une fois ces fameux scoopitones grandeur nature.
Mais le scoopitone qu'il a créé et spécifiquement aussi, pour le lavoir numérique.
Ah oui, sur mesure.
Oui, alors, c'est... on en a parlé, ouais.
Alors c'est un très très bel équipement qui a une longue histoire, ça a mis des années à voir le jour. C'est aussi un équipement du T12, donc la communauté d'Aglo.
Ouais.
Vraiment, je suis très heureuse que le directeur qui dirige déjà la Maison d'Oineau et qui maintenant co-dirige les deux lieux nous intègre immédiatement dans l'aventure. Ça n'aurait pas été forcément une chose évidente soi. Même si c'est à 5 minutes du générateur.
Et c'est-à-dire que la collaboration va se poursuivre alors si
certainement,
je pense que c'est le début de nombreuses dates ensemble, oui.
Ouais, super, super.
En tout cas, Michael Houlette nous accorde une très très belle confiance et beaucoup d'égards.
Très bien. Très bien, mais il fait bien. Il y a le samedi 17 octobre, carte blanche au laboratoire des arts. Alors, je dis pas le LAP, parce qu'ici, le LAP, c'est le lycée autogéré de Paris.
Ah oui.
Donc, je précise, donc, le LAP, mais c'est le laboratoire des arts de la performance. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un collectif qui est assez récent. Je crois qu'ils ont 2 ans sur une initiative d'une artiste plasticienne qui s'appelle Noura Wada. Et qui consiste à organiser des rencontres sur une thématique qui peut être la désobéissance, qui peut être la justice, qui peut être je sais pas. Et elles font un appel à participation qui, pendant 2 jours, peut réunir aussi bien des chercheurs, des universitaires que des artistes, que d'autres origines professionnelles, réfléchir sur une thématique ensemble, en immersion, et de ce travail collectif, une performance peut aboutir. Moi, j'ai trouvé intéressant de faire leur connaissance en direct. Et je pense que là, ils seront une douzaine. Ça sera peut-être un mode show-your-frasque, mais je ne pense pas quand même. Je pense que ça sera plus structuré, mais par curiosité et par sympathie aussi pour Noura Wada. C'est vraiment une carte blanche. On va voir.
Autour du thème de la désobéissance, je crois bien.
Oui.
Ah, tiens donc. Ça nous intéresse aussi. Bon, alors avant de laisser la parole à Léa pour qu'elle récapitule toutes les informations, j'aimerais savoir quels sont les prochains rendez-vous au générateur, ce lieu que nous affectionnons dans cette émission sur cette radio.
Eh bien, si tout va bien, parce que quand même, on est un peu avec une épée de Damoclès tous sur nos capacités à continuer à proposer de l'art vivant dans un lieu clos. En principe, ensuite, on a une carte blanche à Mabiche, qui est quelqu'un qui vient plutôt de la danse et qui fait du mix, et qui est très proche des danses urbaines. Donc elle va faire une soirée. Ensuite, je te laisse la parole, Léa.
On aura Julien Hagenauer, HBT, qui va refaire une soirée qu'on a déjà accueillie le 31 janvier dernier, où il a invité en fait une quinzaine d'amis musiciens, compositeurs, beatmaker, DJ, enfin c'était vraiment...
Et vidéaste aussi.
Ouais, vidéaste aussi. Donc on va refaire ce format qui avait vraiment très bien fonctionné en lui laissant à nouveau une carte blanche. Donc ça, ce sera pour le mois de novembre. Donc,
Et le principe pour lui, c'est toujours un principe aussi très de jeu, c'est-à-dire que en amont, il les rencontre chacun et il leur donne le soir dix minutes, ils font en duo de l'impro. Oui. Donc ça garde ce caractère très improvisé et vivant finalement et très riche parce que chacun n'a que 10 minutes à prouver. Donc ça aussi ça enlève cette dimension grand concert, deux mois. C'est vraiment une rencontre, un partage amical et musical surtout.
Voilà pour les prochains rendez-vous. Léa, c'est à toi. Alors je te laisserai résumer un petit peu tout ce qu'il y a et peut-être nous préciser quand même, il faut le dire à chaque fois, on le dit que le générateur Gentilly, c'est pas très loin de Paris, hein, c'est même à côté, c'est même à quelques mètres on va dire.
C'est à 100 mètres du périph.
Bah oui.
On a maintenant une station de bus, le 57, qui carrément. Est quasiment devant.
Bon, il dépose au pied du générateur.
On a refait la voirie. On hésite d'ailleurs à changer le nom de la station parce que franchement, ce serait mieux de s'appeler générateur.
Exactement.
Mais on n'ose pas. Peut-être le soir de la nuit blanche, on va le faire. Et y a des Vélib, y a le tram.
C'est très bien desservi, il n'y a aucun problème.
En Italie, le tram, on a tout ce qu'il faut.
Ouais. Donc vous avez toutes les informations pour le mois d'octobre avec Frasque sur notre site. Vous avez le programme de 12 pages, Nuit Blanche, et le programme de 28 pages donc de Frasque.
Ah oui, bien. Hein.
Donc qui est accessible dès maintenant sur notre site, donc www.legenerateur.com. Et donc bref récapitulatif donc des dates qu'on va avoir pour Frasque. Donc le samedi 3 octobre à partir de 19h, donc la Nuit Blanche. Le samedi 10 octobre à partir de 11h, la visite des cimetières avec François Durif. Le soir même, on aura la carte blanche Frasque, donc avec Claire Faugoin ici présente, Didier, Did Julius, Cyril Leclerc et David Noir. Le dimanche 11 octobre, à partir de 17h, on a notre première session de Pilou Frasque, scène ouverte à la performance. Le lundi 12 octobre, on a Ici revient de François Durif. Le mardi 13 octobre, on aura la deuxième session de Pilou Frasque, cette fois-ci donc à Mika Danse. Le jeudi 15 octobre, on a cette fameuse inauguration du lavoir numérique. Et le samedi 17 octobre, c'est la clôture avec la carte blanche au Laboratoire des Arts de la Performance.
D'accord. Et alors, il y a des prix, il y a des tarifs ?
Oui. Alors, la plupart des soirées sont en entrée libre, à l'exception donc, de la carte blanche Frasque, donc du 10 octobre. À savoir que nos tarifs, à chaque fois, c'est 8 euros et 12 euros. 8 euros pour les intermittents, classiques, hein, demandeurs d'emploi, étudiants. Ensuite, on a la carte blanche au LAP qui sera aussi payante. Même chose, 8 euros, 12 euros. Et Pile ou Frasque, c'est un tarif unique à 5 euros.
Bon, très bien. Est-ce qu'on a toutes les informations ?
A priori, oui.
Bah oui, hein. Donc il n'y a plus qu'à venir. Bah, c'est le samedi. Bah, nous, on viendra en tout cas. Laurent, tu vas revenir un petit peu là ?
Ah, j'espère bien. Mais on va en parler après l'émission. Après l'émission.
Bah, on compte sur toi quand même. Hein. C'est trop bien que tu sois à nouveau parmi nous. À la fois ici et puis le 3 et puis ailleurs.
T'as des concerts à venir et tout ça ?
Le 3 octobre, vous allez m'écouter.
Je le frasque. Bon, on verra bien. Alors, nous, la semaine prochaine, on reçoit Alain Belaïch, guitariste qui a participé au groupe Eldon dans les années 70-80, qui a fait plein de projets. Il a fait carrière Il a fait. Il a fait plusieurs. Plusieurs disques aux États-Unis. Il vit au Canada maintenant et on le reçoit en collaboration avec Le Souffle Continu. Voilà pour la semaine prochaine. Merci. On va se quitter. Là, j'oublie pas de l'annoncer avec Simon Enoch, We Use Cookies. Merci à toutes et tous d'être venus et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Salut.
Merci
pour
l'invitation. Bye bye. Merci Christophe.
Merci à Patricia, pardon.
Pour la technique.
Merci à Patricia pour la technique.
Merci Patricia.